Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, nous écoutons le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et médecin directeur de l'hôpital de Panzi à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Il était à New York cette semaine pour participer à un débat du Conseil de sécurité sur les violences sexuelles en temps de conflit. Lors de ce débat, de hauts responsables des Nations Unies et des militants des droits humains ont appelé à davantage d'efforts pour prévenir et mettre fin à ces crimes. Denis Mukwege a plaidé en faveur de l'établissement d'un fonds mondial d'aide aux victimes de violences sexuelles. On l'écoute.
Nous exprimons le souhait de voir la communauté internationale s'engager dans l'établissement d'un fonds en vue de répondre aux besoins des survivantes et combler les lacunes actuelles de la justice tant domestique qu'internationale. Ce mécanisme consistera en un fonds qui octroiera de programmes et de projets de réparation dans les pays qui nient leurs responsabilités ou qui ont besoin de soutien pour les assumer. Il n'y aura pas de paix durable sans justice, et tant que les femmes victimes ne seront pas entendues avec dignité par les États et associées pleinement à la construction de la paix et à la consolidation de la société.
Lors du débat au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué les efforts déployés par le docteur Mukwege pour créer ce fonds d'aide aux victimes et il a appelé tous les États membres à y contribuer. Avant ce débat, nous avons rencontré Denis Mukwege. Au micro d'Alban Mendes de León, il explique en quoi la communauté internationale a une responsabilité envers les enfants nés de viol et plaide en faveur de réparation pour les femmes victimes de violences sexuelles.
Nous avons la responsabilité comme humanité par rapport à ces enfants qui n'ont pas demandé de naître après le viol et qu'après ils se retrouvent rejetés par leur communauté. Leur père n'est pas connu puisque les femmes souvent sont violées par plusieurs personnes à la fois. Et les femmes se retrouvent avec un enfant non désiré, un enfant qui n'a pas de filiation, qui n'a pas d'identité. Et je crois que c'est notre responsabilité par rapport à ces enfants de pouvoir répondre à cette question. Aujourd'hui, si par exemple des femmes yézidis qui ont été esclaves sexuelles et qui ont eu des enfants avec des musulmans, les religions ou leur communauté yézidi ne les acceptent pas puisqu'elles les considèrent comme des enfants musulmans. Est-ce que ces enfants, nous comme humains, nous les rejetons ou nous devons trouver des moyens qui doivent exister pour permettre à ce que ces enfants puissent vivre normalement sans être discriminés, puisque le fait d'avoir des naîtres du viol, ces enfants n'ont aucune responsabilité. Ils sont innocents par rapport à ce qui leur est arrivé. Malheureusement, ils trouvent des normes que nous, on a placées, et donc nous avons aussi la responsabilité d'avoir des règles pour les protéger, pour leur donner un avenir. Et je pense que ça, c'est un exemple. Quand je prends un deuxième exemple, beaucoup de femmes victimes de violences sexuelles, même lorsqu'elles ont le courage d'affronter la justice, ce qui n'est pas facile, qu'elles gagnent les procès. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de réparation, puisque tout simplement les États vivent dans le déni. Ils n'acceptent pas que c'est arrivé. Et ces femmes qui ont donc bravé l'humiliation dans leur communauté pour aller devant la justice, qui ont un jugement, ce qui n'est pas facile à une femme de prouver qu'elle a été violée, puisque souvent on demande à ces femmes de prouver qu'elles ont été violées, ce qui est un nouveau traumatisme pour ces femmes. Et qu'à la fin de ce traumatisme, on leur dise oui, la réparation, mais bon, ben, on ne sait pas comment ça se fait. Moi, je trouve que c'est une responsabilité encore de notre humanité commune de pouvoir pas prendre la responsabilité des États. Les États ont l'obligation de faire cette réparation. Mais lorsque les États ne peuvent pas, puisqu'ils sont dans l'incapacité de les faire, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, lorsque l'État ne veut pas les faire, puisqu'il est dans le déni, la victime ne doit pas être encore une fois la femme qui a été violée. Donc, Il faut trouver un mécanisme qui permet à ce que toutes les femmes victimes de violences sexuelles que nous, on n'a pas pu protéger, que ces femmes puissent avoir une réparation. Ça ne veut pas forcément dire que le fait qu'un État participe à ces fonds prend la responsabilité juridique de ce qui s'est passé. Non, je pense que ce n'est pas la responsabilité de l'État qui participe au fonds, puisque le responsable a été nommé, le responsable a été jugé, mais le responsable n'a pas été capable de payer la réparation et que c'est une responsabilité humaine, encore une fois, de pouvoir payer cette réparation puisque celui qui a commis le viol n'est pas capable de le faire. Et moi, je pense que ça entre pour moi dans tout simplement l'éviter la discrimination et de ne laisser personne pour compte.
Et donc, vous proposez un fonds commun ou comment?
Ça devrait être un fonds global où nous espérons que tous les États peuvent participer, mais on peut également faire participer les privés dans ces fonds. On peut faire participer, on peut accepter des dons dans ces fonds et en fait avoir un board ou en fait un conseil qui pourra être certainement global, mais qui doit mettre le mécanisme en place, le fonctionnement du fonds et comment le fonds va être utilisé par ces boards qui doit être tout à fait des experts et des personnes qui ont l'expertise pour être dans ces fonds. Je pense que c'est un fonds qui ne dépendra pas d'un État. On a besoin des Nations Unies pour les soutenir, puisque pour que les États viennent, nous avons besoin des Nations Unies. Mais on ne peut pas se limiter seulement aux États, il faut élargir. Et je peux vous dire, il y a des pays que je ne cite pas, mais on connaît ce qui est en train de se passer dans leur pays aujourd'hui, mais que les responsables des pays ne peuvent jamais accepter de faire de la réparation. Il y a tous les problèmes, par exemple, de la justice des vainqueurs. Lorsque quelqu'un a gagné une guerre et il a utilisé le viol comme arme de guerre, il ne pourra jamais accepter de payer cette réparation. Allons-nous laisser ces victimes sans une forme de réparation puisqu'elles ont été victimes du vainqueur de la guerre? Non, je crois que c'est une question de responsabilité humaine.
Docteur Mukwege soutient l'idée d'un mécanisme d'alerte en cas de viol de masse utilisé comme arme de guerre.
Je crois que parmi les propositions que peut-être on fera pendant les débats, c'est qu'il faudrait absolument avoir un mécanisme d'alerte précoce. Lorsque le viol de masse s'est commis, il faut absolument qu'il y ait la possibilité de pouvoir alerter. Et je pense que ce qui peut faire cette alerte précoce, il faut compter sur les associations, les organisations des femmes. Et ces organisations des femmes, on peut les trouver partout. Il est question de les informer, de leur donner la formation qu'il faut pour qu'elles sachent exactement ce qu'elles doivent rapporter lorsque ça arrive. Ça, c'est au niveau de la base. Mais après qu'elles peuvent alerter, il faut qu'on puisse créer un mécanisme qui permet à ce que, lorsqu'elles alertent, qu'il y ait un observatoire d'abord local qui peut enregistrer les cas de viol, qui peut savoir qui a violé, et cet observatoire peut déjà constituer une base de données par rapport à ces viols de masse. Et de l'observatoire local, il faut créer des observatoires au niveau des pays et au niveau régionaux et avoir aussi un observatoire au niveau global pour que les informations puissent monter à partir des alertes précoces faites par les organisations féminines, surtout les organisations à la base, et que ces informations puissent monter et avoir une base de données au niveau global. Je crois que ça a une importance. La première importance est que lorsque les phénomènes commencent, au moins on a la possibilité de savoir qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. On ne doit pas attendre 2 ans, 3 ans pour se dire, en effet, il y a des viols de masse qui se sont passés. Je pense que lorsque l'information existe, lorsque la population est informée, surtout les organisations féminines, et qu'elles savent comment faire remonter l'information, ça peut permettre une prévention aussi précoce qu'attendre que les femmes viennent avec des enfants, que finalement on a tout le mal du monde, à savoir comment les identifier, comment les enregistrer au niveau des pays, etc. Et je pense que les alertes précoces, avec observatoire surtout, ça pourrait être une arme pour lutter également contre les violences pendant les conflits armés.
Alors, Dr Mukwege, vous avez pratiquement risqué votre vie, dédié toute votre vie à combattre les violences sexuelles en conflit. Aujourd'hui, vous êtes invité au Conseil de sécurité, accompagné par Nadia Mourad, qui est l'autre récipiendaire du prix Nobel de la paix. Avez-vous l'impression, dans un contexte global, qu'il y a une prise de conscience, le débat progresse en matière de lutte contre les violences sexuelles ?
Absolument. Ma première intervention au Conseil de sécurité date de quelques années. Et je dois dire que le débat n'était pas au niveau où il est aujourd'hui. Et je crois que les femmes ont fait un travail remarquable, puisque la première chose que les femmes ont été capables de faire, c'était de rompre le silence. Et je crois que ça, c'est très, très important, puisque le silence, c'est l'arme de l'agresseur. Lorsque les bourreaux violent une femme, ils essayent toujours une mise en scène et qui bloque la femme à pouvoir dire ce qui s'est passé. Or, lorsque la femme ne dit pas ce qui s'est passé, ça veut dire que le bourreau peut continuer à violer d'autres femmes ou à violer la même femme en montrant que c'est plus dangereux pour elle de parler de ce qui est arrivé. Et donc, je pense qu'à partir du moment où les femmes, maintenant, ont le courage de dénoncer leur bourreau, nous sommes en train de faire passer la honte de la victime vers, plutôt, le bourreau. Et ça, c'est très important, puisque je pense qu'à partir du moment où on peut vaincre ces normes sociales qui veulent que la honte soit sur la femme, eh bien, celui qui commet le viol devrait être responsable de son acte. Alors qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, lorsque la femme est violée, elle est blâmée, celle qui est blâmée, celle qui a la honte, et donc les résultats, elle garde le silence. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les femmes ne savent même pas où est-ce qu'elles peuvent aller porter plainte, puisque la première personne qu'elles rencontrent, c'est une personne qui la stigmatise davantage. Et donc, au lieu de pouvoir l'accueillir et avoir de l'empathie envers elle, la plupart du temps, c'est pour plutôt la blâmer. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont franchi une barrière supplémentaire à rompre le silence et de parler ouvertement du viol. Je crois qu'à ce moment-là, elles deviennent la pièce maîtresse, même dans la justice.
Vous êtes récipiendaire du prix Nobel de la paix, que vous partagez donc avec Nadia Mourad. En quoi est-ce que cela a impacté votre travail ? Est-ce que vous pouvez nous parler du changement que ça a pu créer un petit peu ?
Ce qui a pu changer à ces jours dans ma vie, c'est qu'au début, j'ai travaillé 75% de mon temps à l'hôpital et je faisais le plaidoyer 25% de mon temps. Aujourd'hui, l'équilibre est très, très difficile à tenir et j'ai l'impression que j'ai fait maintenant beaucoup plus de plaidoyer depuis le début de cette année, mais j'espère pouvoir utiliser cette année pour ce plaidoyer avant de revenir à ma vie normale de médecin à l'hôpital.
Voilà, fin d'escale avec Dr Denis Mukwege, médecin congolais, prix Nobel de la paix 2018, un magazine conçu, produit et présenté par Jérôme Bernard avec la collaboration d'Alban Mendes de Leon. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et via les médias sociaux nos magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.